À l'occasion d'une conférence donnée à Lourdes, votre invitée ce matin, Isabelle Duché, témoigne de son engagement en politique.
Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. C'est le titre de l'ouvrage de Christine Boutin, chrétienne engagée en politique entre 1977 et 2017. Bonjour madame.
Bonjour.
Lors de votre conférence aux veilleurs de Bigorre le 13 juin, vous lancerez un cri d'amour pour la France que vous avez tant servi. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas ou qui avaient juste entendu votre nom que vous avez été maire, conseiller général, député des Yvelines pendant 21 ans. Vous avez été aussi ministre du Logement sous le gouvernement Fillon et vous êtes aujourd'hui retiré de la vie politique. Mais cet ouvrage prouve bien que votre engagement continue d'une autre manière. Que souhaitez-vous transmettre en particulier aujourd'hui, Christine Boutin ?
Écoutez, je pense que dans la situation triste du déclin de la France, que tout le monde constate avec tristesse, il y a urgence à renouer avec Dieu. La France, depuis 40 ans, et sans doute avant, bien avant, moi je remonte ça au XVIIIe siècle et à la Révolution et à la Deuxième République, je crois qu'il y a eu un chemin de... Tout a été organisé pour nous amener petit à petit, alors que nous sommes profondément chrétiens. Nous sommes la France, quand elle était belle, était une France chrétienne qui croyait en Dieu et qui aujourd'hui veut prendre la place de Dieu. Vous savez, c'est l'orgueil classique auquel nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire de renier Dieu et de prendre sa place.
Oui, et votre livre est un plaidoyer quand même pour l'engagement en politique. Vous dites que c'est un chemin d'apprentissage des vertus. Oui. Et on voit bien dans tout votre engagement que vous étiez là pour servir le pays et non pas pour vous servir.
Absolument. Si vous voulez, la politique, moi j'aime la politique et je le montre dans ce livre. La politique, c'est par la politique que j'ai retrouvé Dieu. Moi, le Seigneur m'a appelé, je n'étais pas obligatoirement faite pour cela, et il m'a appelé à être en politique. Et j'ai découvert la richesse de notre religion. Nous avons un trésor absolument extraordinaire grâce à l'expérience concrète des relations entre les hommes. Alors tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique, bien sûr, c'est un milieu très difficile de séduction, d'argent, de pouvoir, et il faut vraiment être très armé pour ne pas tomber, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie pour le monde politique, parce que je nous connais tous, je les connais tous, et je sais combien on peut avoir des tentations que peu d'hommes peuvent combattre, si vous voulez.
Tentation. Donc, et beaucoup de d'attaques aussi.
Oui, ah ben bien sûr, mais ça fait partie, c'est vrai. Mais en fait, vous savez, la vie est permanente. Dans la vie, dans l'entreprise, c'est pas non plus tout rose. Dans le monde économique non plus, etc. Même dans le où c'est une radio, c'est pas toujours facile. Les relations entre les hommes n'est pas facile. Alors bien sûr, c'est le sommet en politique, ça je crois. Et alors le plus, la grande différence, c'est que le politique, c'est visible. Si vous voulez, les difficultés, quand par exemple, il y a un échec dans l'entreprise, vous êtes le licencié, c'est terrible, mais personne ne le sait, sauf les gens de l'entreprise qui vous côtoient. Mm-hmm. Un homme politique ou une femme politique, si elle fait une bêtise, ou si elle échoue, si elle n'est pas réélue, la France entière le sait, c'est
oui.
Très difficile.
Et d'autant plus... Et d'autant plus amplifié par les réseaux sociaux.
Ouais, bah bien sûr. Mais vous savez, les réseaux sociaux, moi, je suis beaucoup moins, comment dirais-je, intransigeante que beaucoup, parce que les réseaux sociaux, bien sûr, il faut faire le tri comme dans tout. Mais aujourd'hui, où en fait nous sommes en train de nous installer dans un état totalitaire où la liberté d'expression va être de plus en plus difficile, eh bien, je dis heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, et je vois avec effroi. Justement la tentation qui est actuellement menée par mon successeur dans ma circonscription, Madame Berger, le ministre actuel, qui avec Monsieur Macron veut régenter tous les réseaux sociaux. Alors ça fait plaisir, mais on ne se rend pas compte que c'est notre liberté d'expression.
C'est une liberté d'expression. Oui. Vous avez consacré, Christine Boutin, une grande partie de votre engagement politique au service de la vie et de la famille. Oui. Vous avez d'ailleurs été consulteur du Conseil pontifical pour la famille sous les pontificats de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François. Qu'apporte la famille qu'aucune autre structure ne peut apporter ?
Écoutez, la famille, elle est essentielle, et c'est la raison pour laquelle elle a été tellement démolie petit à petit. La famille, c'est le lieu de tous les apprentissages. Bien sûr, de l'affection, bien sûr, de l'amitié, de la relation parent-enfant. Mais il ne faut pas non plus voir que le côté positif. La famille, toutes les familles ne sont pas faciles. C'est aussi l'apprentissage des inégalités. Il y a une inégalité à être l'aîné et le second ou le dernier. Vous voyez, c'est l'apprentissage de la vie. La vie dans une petite société qui est composée d'un père et d'une mère et avec des enfants, eh bien, c'est l'apprentissage à la fois pour les adultes et pour les enfants de la réalité de la vie, de la dignité de la personne humaine, de l'obligation à se dépasser, de l'apprentissage de l'amour et de l'affection, de l'apprentissage des inégalités, de la difficulté de la vie. Mmh. La famille, c'est la réalité de ce qui va se passer pour le petit enfant dans sa vie d'adulte.
Et vous avez cette très jolie expression dans votre livre où vous dites que la famille est ce lieu unique où la contrainte et l'amour ne se contredisent pas.
Voilà, exactement. Je merci de le citer. c'est bien dit parce que c'est écrit. mais voilà, voilà, je pense que la famille est effectivement essentielle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça ne va pas bien. Du reste, il y a un certain nombre de familles qui essaient de résister et c'est de plus en plus difficile. Déjà, à mon époque, pour élever mes enfants, nous trouvions avec mon mari que ce n'était pas simple. Mais alors maintenant, nos enfants, ça n'a pas été plus facile et nos petits-enfants, ça sera encore plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver ces valeurs simples, essentielles. La différence entre un homme et une femme. Ce qui n'était inimaginable il y a 45 ans, 50 ans,
on ne pouvait
pas imaginer
des
choses pareilles. Mmh. Et aujourd'hui, il faut le rappeler. C'est une vérité, une réalité qui s'impose à tous. Mmh. Non, justement, nous ne voulons plus cela. C'était du reste dans notre religion, qui est une religion de l'amour et de la liberté. Je disais souvent, la seule chose que le Seigneur nous impose, c'est notre sexe. Je ne croyais pas si bien dire. Aujourd'hui, on est à une époque où on peut choisir son sexe. Un animal, un poisson, un oiseau, je ne sais quoi. Enfin, nous sommes vraiment dans une époque de folie. Et il est temps de retrouver la vérité, la simplicité, la réalité, tout
oui.
simplement.
Et vous écrivez que la famille effectue un travail social, donc non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un travail social. Et c'est ce qui fonde la différence entre la politique familiale et la politique sociale, qu'est-ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui?
Écoutez, aujourd'hui, il y a eu une volonté d'aider toutes les familles, c'est-à-dire que les allocations familiales étaient fondées sur le fait qu'un enfant, quel qu'il soit, entraînait des charges et que l'État, pour récompenser, entre guillemets, c'était du reste l'idée de la Révolution, pourquoi la Révolution a-t-elle maintenu le mariage civil alors que tout était religieux auparavant? Ben parce que la Révolution, à l'époque, a reconnu que le fait d'avoir des enfants assurait la pérennité du pays, de la nation. Et en contrepartie, a été créée dans les années 36, 37 à peu près, les allocations familiales, qui étaient une reconnaissance de l'État à l'effort que faisaient les familles à avoir des enfants. Et on voit aujourd'hui le résultat. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus avoir d'enfants. Et si bien que l'avenir est très compromis pour les retraites dans quelques années. Alors là, c'était le côté universel. Alors pourquoi on le donnait à tous les enfants? Parce que, on l'attribuait à tous les enfants, parce que l'enfant était la richesse. Elle était égale pour chaque enfant. Et donc l'État reconnaissait cet apport de l'homme et de la femme en ayant des enfants. Mmh. Et petit à petit, s'est greffé là-dessus l'idée sociale de la famille, c'est-à-dire qu'on donnera aux riches, on donnera aux pauvres, pardon, et pas aux riches. Ce qui enlève naturellement la dignité intrinsèque de tout enfant. L'enfant qu'il naisse dans une famille riche ou dans une famille pauvre...
Oui, à la même dignité.
À la même dignité et la même richesse pour l'État que n'importe lequel, vous comprenez, c'est une égalité. Et aujourd'hui, on a rompu cette égalité en créant pour la famille des aides sociales fondées sur la richesse ou non de la famille.
Un de vos grands combats a été aussi contre l'instauration du PACS, le Pacte civil de solidarité. Et vous démontrez dans votre livre que cette étape a constitué un tournant décisif dans la déconstruction de la famille en se basant, je vous cite, sur la tyrannie des minorités. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce terme, Christine Boutin.
Je n'ai pas bien entendu, la tyrannie des LGBT,
la tyrannie des minorités.
Des minorités. La tyrannie des minorités, bah, écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé en ce qui concerne le mariage homosexuel. En fait, le mariage homosexuel, bien sûr, il y a toujours eu des homosexuels en France, dans le monde, mais enfin, c'était une minorité, une très grande minorité. Et dans un esprit de non-réalité, on a voulu donner un mariage à deux hommes, deux femmes, qui, elles, le mariage étant fondé, comme je vous l'ai dit, par la Révolution, perpétué par la Révolution, comme une reconnaissance de cet homme et de cette femme qui s'engagent à avoir des enfants, eh bien là, on a voulu faire un mariage à des personnes qui, naturellement, ne peuvent pas, sans l'introduction d'un tiers, pardonnez-moi, avoir des enfants. Et on a fait une fiction. Et cette minorité s'est imposée à tous. Elle s'est tellement imposée que pourtant les Français se sont mobilisés. Souvenez-vous des manifestations qui ont été faites ensuite contre le mariage pour tous. Il y avait plus d'un million de personnes dans les rues de Paris. Eh bien, personne, le pouvoir politique n'a pas voulu entendre cela et l'a imposé. Et c'est aussi un moment très important dans notre histoire. Parce que là, les Français ont commencé à baisser les bras en se disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes inutiles. Même comme nous sommes très nombreux, on ne nous écoute pas. » Et c'est effectivement un tournant. Alors, au moment du Pax, je me suis évertuée à dire que si on faisait le Pax, au nom de l'égalité, on serait obligé d'aller vers le mariage homosexuel.
Oui, avec et la filiation artificielle. Et...
Absolument. Oui. Et à l'époque, M. Romero, qui est le président de la DMD, c'est-à-dire celui qui est le promoteur aujourd'hui de l'euthanasie, disait dans une vidéo qu'il ne pensait pas publique, mais que nous avons pu avoir, « Mais bien sûr que Boutin avait raison, bien sûr qu'elle avait raison, mais il faut être un peu malin en politique. Nous savions très bien que le Pax allait aller vers le mariage. » Et on ne savait pas à l'époque que ça irait aussi loin. Parce que maintenant, effectivement, comme la transgression a été absolue, maintenant, après avoir... Parce que tout ça remonte à très loin, je le dis dans mon livre.
Oui, vous l'expliquez bien, oui.
Si vous voulez, mon combat, mon vrai combat, ça a été le combat pour la vie. La lutte contre l'avortement. Moi, j'ai toujours dit que j'étais contre l'avortement dès le début, il y a plus de 40 ans. Et j'ai toujours été fidèle, grâce à Dieu qui m'a donné cette grâce de fidélité. Mais tout était compris. Et aujourd'hui, on en est où ? Toujours avec la même minorité, présidée par M. Romero à DMD, à l'euthanasie.
Mais voilà. Justement, Christine Boutin, vous avez parlé de ces manifestations et de ce où les gens ont fini par baisser les bras. Il y a eu des lois de bioéthique de plus en plus permissives depuis 1994. L'adoption du mariage pour tous, c'était en 2013. De la PMA pour tous, en 2021. Et puis, plus récemment, au moins en première lecture, l'adoption de la proposition de loi sur l'aide à mourir par les députés, c'était le 27 mai. Certains ont l'impression quand même d'un engrenage que rien ne peut plus arrêter. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je ne suis pas du tout dans cette idée de baisser les bras. Moi, je suis dans l'espérance.
Oui, vous êtes une combattante.
Ah ouais, mais chacun a la possibilité d'être combattant. Moi, je suis pleine d'espérance. D'abord, premièrement, je crois à la grâce et à l'amour de Dieu pour son peuple. Et je pense qu'il n'abandonnera pas la France. La France est chrétienne. Elle est actuellement, elle se comporte de façon insupportable, je dirais même... je n'ose pas utiliser le mot, mais vraiment d'une prostituée. Franchement, et le Seigneur a racheté les prostituées. Mais la France est aujourd'hui à tout renier et n'est plus dans à renier Dieu. Et nous allons renouer avec Dieu. Regardez hier, pendant ce week-end de la Pentecôte, ce magnifique pèlerinage de la chrétienté, qui est un exemple magnifique qui est donné. Moi, je ne suis pas tradit, je suis plus classique et concile Vatican II.
Mais 19 000 jeunes sur les routes de Paris à Chartres, et puis dans le diocèse de Toulouse, 15 000 personnes rassemblées dimanche pour la Pentecôte et pour célébrer les confirmations de plus de 1 000 personnes. Oui.
Mais vous rendez compte, c'est extraordinaire, les signes d'espérance. Le Seigneur nous donne ces signes d'espérance avec toutes ces confirmations dans la France qui surprennent tout le monde. Mais d'où sortent-ils ? Comment viennent-ils ? Que se fait-il ? Comment se fait-il ? Mais ils sont là, ces jeunes.
Donc il faut finalement garder l'espérance et ne pas baisser les bras. si je vous suis bien.
Absolument. Ah mais absolument, et mon appel, ce livre, est un appel aux jeunes. Parce que moi, j'ai senti que ces jeunes arrivaient. Et ces jeunes, pour moi, je les appelle les chevaliers de la Renaissance française. Ces jeunes-là, ceux qui étaient à Chartres et ceux qui étaient partout et ceux qui se baptisent et qui se confirment aujourd'hui, ce sont eux, les chevaliers de la Renaissance française.
Alors, ces chevaliers de la Renaissance, ils peuvent lire votre livre, Christine Boutin, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français aux éditions Teki. Je rappelle que vous donnerez aussi une conférence aux Veilleurs de Bigorre vendredi 13 juin à 20h30, salle Saint-Pierre à Lourdes. Et je vous remercie beaucoup, Christine Boutin, pour cet entretien.
Avec joie, avec joie.